Je vais prier une deuxième fois. Seigneur, je te prie que tu nous aides à être à ton écoute. Merci pour ta parole qui est nourrissante, qui nous transforme, qui nous aide à voir le monde comme toi tu le vois et à vivre en imitant Jésus-Christ, notre exemple parfait. Au nom de Jésus. Amen. Alors, en moyenne, une personne passe 5 années de sa vie à attendre en faisant la queue. Une personne passe 5 années de sa vie à attendre en faisant la queue. 6 mois de ces 5 années sont passés à attendre que le feu rouge passe au vert dans la voiture. On passe 6 mois de 5 années d'attente à attendre que le feu rouge passe au vert en voiture. Waouh, passionnant. On attend de toutes sortes de manières, en faisant la queue au supermarché, lorsque nous sommes coincés dans un embouteillage ou peut-être coincés dans le RER, on attend dans la salle d'attente pour consulter un docteur. Mais le chrétien, lui, il bat tous les records d'attente. Ouais, ouais. Il passe toute sa vie à attendre le retour de son Sauveur Jésus-Christ et son Seigneur. Mais comment est-ce que le chrétien continue à attendre ? Comment est-ce que le chrétien continue à attendre ? On fait une petite pause cette semaine dans la série dans l'Ecclésiaste pour passer un peu de temps, pour prendre un peu de recul et voir ce que le Nouveau Testament a à nous dire en termes de comment vivre la vie chrétienne. Alors je vais lire Matthieu 25, versets 14 à 30, page 638. Matthieu 25, versets 14 jusqu'à 30, page 638. Donc Jésus parle à ses disciples et leur enseigne une parabole. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. » Et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas planté ? Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans cette section de l'évangile de Matthieu, Jésus annonce la fin du monde et nous donne 2 instructions. La première, c'est que tout disciple doit être vigilant en attendant la fin. Tout disciple doit être vigilant en attendant la fin. La deuxième instruction, c'est que tout disciple doit être diligent, c'est-à-dire assidu, en attendant la fin. Tout disciple doit être diligent, c'est-à-dire assidu, en attendant la fin. Un disciple qui attend bien le retour de Jésus est vigilant et diligent. Face à un monde qui est voué à la destruction, comme on l'a vu, voué à la frustration dans le livre de l'Ecclésiaste, il est plus que jamais nécessaire d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est le seul espoir pour notre monde. On va résumer brièvement la parabole que nous venons de lire. Un maître confie tous ses biens à trois serviteurs. Au verset 14, le maître doit partir en voyage. Et il ne revient que longtemps après, au verset 19, pour leur demander des comptes. Deux serviteurs sont félicités pour leur travail et le maître les comble de bénédictions. En revanche, le troisième serviteur ne fait pas bien son travail, il est repris par le maître et au verset 30, il est jeté dans les ténèbres, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et les pleurs et les grincements de dents font référence à ce qu'on appelle communément l'enfer. Dans cette histoire, Jésus-Christ est le maître du verset 14. Les disciples sont les serviteurs du verset 15. Lorsque le maître parle de confier ses biens à ses serviteurs au verset 14, les biens qu'il a confiés sont quelque chose de très spécifique. Ça correspond à l'évangile d'après Matthieu 13, verset 10 à 13. Jésus-Christ, en fait, n'est pas en train de nous dire qu'on doit gagner un maximum d'argent avant son retour. On doit se remplir les poches. On doit peut-être devenir des traders ou des banquiers en attendant son retour. Non. Il nous confie une mission toute particulière, une entreprise d'une valeur inestimable, qui est l'entreprise de gagner des âmes pour le repos éternel. Et tout disciple prend part automatiquement à cette mission en attendant le retour de Jésus. Ce n'est pas que pour certains. Matthieu 13, versets 10 à 13, dit que Jésus nous a confié une connaissance spéciale de l'Évangile. Comme disciples vivant en 2017, après la croix, on a hérité d'un éclaircissement spécifique sur le sens de notre vie. Le sens de la vie se trouve ultimement en Jésus-Christ. La vanité, la frustration, le cycle de la mort, même si ça reste des réalités dans notre monde présent en tant que chrétien, elles ont été brisées par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Et Jésus est venu pour commencer une nouvelle création, avec un nouveau royaume, un nouveau peuple qui n'est plus caractérisé par le péché, par la vanité, par la frustration. Et Dieu a confié à ses disciples cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui est d'une valeur inestimable pour que cette nouvelle soit annoncée aux familles de la terre, dans les villes et dans toutes les nations. Le maître a prouvé sa grande générosité. Il nous a, en plus de ça, en plus de nous confier l'évangile, il nous a donné beaucoup de temps pour remplir notre mission. Et ce temps qui est long peut nous paraître, c'est ce qu'on appelle l'attente. En fait, il nous a donné beaucoup de temps pour faire fructifier son œuvre. Lorsque nous avons l'impression d'attendre le retour de Jésus, le maître, en fait, fait preuve de patience envers les hommes. Il nous a donné ce temps d'attente parce qu'il veut sauver des âmes. Et il démontre sa grande générosité envers nous tous en nous faisant attendre. Donc on va parler justement de cette générosité du maître. On va regarder les versets 14 à 18. On voit au verset 14 et 15 que la générosité du maître est grande. Il confie ses biens et donne à chacun des sacs d'argent. On ne sait pas tout à fait quelle taille étaient ces sacs. On sait juste que chacun des serviteurs a reçu une très grande quantité d'argent, même celui qui n'avait qu'un seul sac. ils avaient largement de quoi faire fructifier l'œuvre du maître. Et les deux premiers serviteurs sont vraiment boostés par la confiance du maître. Ils font tout pour se montrer assidus en attendant le retour du maître. Vous avez peut-être tous eu l'expérience d'être soumis soit à un bon maître, soit à un mauvais maître, soit à un bon patron, soit à un mauvais patron, soit à un bon prof, ou soit à un mauvais prof qui vous a fait détester une ou une autre matière. Un bon patron peut instiller en nous une dynamique de travail assez spectaculaire à travers sa confiance, à travers son enthousiasme, à travers ses encouragements. Au contraire, un mauvais patron peut nous écraser, il peut nous ridiculiser, il peut nous paralyser dans notre travail. On voit au verset 14 que la confiance que le maître démontre montre que c'est un maître généreux et bon qui veut motiver tous ses disciples. Et fondamentalement, ça c'est quelque chose que le serviteur ne sait pas. Il connaît très mal son maître. Et ça on le remarque au verset 24 et 25. Lorsqu'il dit, en fait il dépeint un tableau assez noir du maître au verset 24. Il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » Et il dépeint en fait le maître de façon caricaturale, comme quelqu'un de cruel, d'injuste, de strict, capricieux, sans aucune compassion. Et tout ça, c'est sous-entendu derrière le mot « dur » au verset 24. Mais en fin de compte, la supercherie est évidente, parce que les deux serviteurs n'ont pas eu cette expérience. C'est tout le contraire au verset 21 et 23. Eux, ils dépeignent un maître généreux, juste, qui récompense et qui ne garde pas sa joie pour lui tout seul. Il la partage avec ses serviteurs. En plus de ça, au verset 25, le mauvais serviteur dit avoir eu peur. Il s'agit ici d'une peur qui est servile du maître. Il ne s'agit pas de la crainte que nous pouvons connaître qui apparaît dans des livres comme l'Ecclésiaste ou comme dans Proverbes. En fait, ce sont les deux bons maîtres qui montrent leur crainte parce qu'ils agissent, justement, parce qu'ils sont dans le cœur de l'action. La vraie crainte de Dieu nous pousse toujours vers la repentance, vers la grâce, vers l'action. En fin de compte, la description du maître par le mauvais serviteur est honteuse. Il y a quelques semaines, c'est là où je vais parler de Michael, nous avons acheté un bulbe de fleurs pour notre fils Joshua qui a 3 ans. On lui a confié un petit projet pour essayer de le responsabiliser. Et il a pris cette tâche, cette responsabilité très au sérieux. Et en fait, il a mis de l'eau pour que ce bulbe grandisse. Il lui a donné un prénom, Michael. On ne sait pas pourquoi. Et maintenant, nous avons une superbe fleur qui sent très bon sur la table de la cuisine qu'on peut regarder tous les jours. Il nous a montré qu'il prenait très soin de ce bulbe. Et maintenant, en fait, on est en train de réfléchir à quelle responsabilité supplémentaire on pourrait lui donner qui correspond à son jeune âge. Un autre petit projet. En fait, c'est ainsi que le maître réagit au verset 21 et 23 envers les deux bons serviteurs. Il leur confie beaucoup plus. Mais imaginez un instant si, après avoir offert ce bulbe à notre fils, il avait laissé ce bulbe mourir, et si en plus de ça, il nous avait dit après coup que nous étions des parents sévères et durs. Ça nous aurait heurté, franchement. C'est exactement ce que le mauvais serviteur est en train de faire. Le mauvais serviteur ne connaît pas son bon maître. Il ne connaît pas sa bonté, sa grâce et sa générosité. En fait, si nous avons une vision malveillante de Dieu, de Jésus-Christ, son Fils, que nous avons une vision où on pense que le maître ne veut pas notre bien, ou que le maître cherche égoïstement à s'enrichir sur notre dos, on va rien faire pour notre maître. Et malheureusement, aujourd'hui, on peut trouver pas mal de serviteurs qui doutent de la bonté de Dieu et du bien fondé de son projet. Des serviteurs qui s'amusent à ternir l'image du maître. Culturellement, en France, nous sommes connus pour notre méfiance. Certains plaisantent en disant que les Français respectent un seul commandement. C'est « méfie-toi en toutes circonstances ». Cette méfiance, elle se perçoit parfois dans nos relations, les uns avec les autres, dans les rapports de force entre les syndicats d'un côté et les patrons de l'autre. On est toujours suspect des personnes puissantes qui... Et ça, c'est parfois c'est, on a de bonnes raisons d'être suspect des plus puissants, mais pas toujours. On peut se méfier de puissants qui risquent à un moment ou à un autre de nous jouer des tours. Il me semble que de la même manière, nous pouvons aussi suspecter Dieu et son projet missionnaire. Nous avons peut-être du mal à croire que son projet pour toutes les nations est un projet bon. On se méfie de l'évangélisation, qu'on compare à du prosélytisme. On préfère privilégier les œuvres sociales à la proclamation de l'évangile, à parler du péché et du jugement. On trouve ça plutôt louche que Jésus veuille faire des nations des disciples. Est-ce que Dieu agit comme un mégalomaniaque, un dictateur de la pensée unique ? Au verset 21 et 23, on voit un maître bienveillant. Jésus est un maître bienveillant qui démontre pleinement sa générosité. C'est le roi serviteur, celui qui est venu nous servir, qui a donné sa vie pour nous libérer. Et en effet, il nous donne du travail, mais son joug reste léger. Jésus est un bon maître, simplement parce que c'est dans sa nature d'être bon. Et c'est aussi un bon maître parce qu'il nous donne du temps pour faire notre travail. Regardez le verset 19. Au verset 19, on note que le maître revient longtemps après. Le maître nous laisse un délai pour proclamer cette bonne nouvelle à d'autres avant son retour. La course chrétienne n'est pas un sprint caractérisé par un activisme frénétique, c'est plutôt un marathon où nous devons prendre un bon rythme pour persévérer jusqu'à la fin. Et afin de persévérer jusqu'à la fin, on a besoin de puiser notre carburant dans la connaissance de notre maître. On a besoin de savoir que notre maître est bon pour tenir jusqu'à la fin dans notre service. On a parlé de la générosité de notre maître. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qu'on fait en attendant notre maître. On va parler des versets 14 à 17. Les deux premiers serviteurs, en fait, sortent du lot dans la parabole, notamment à cause de leur activisme persévérant. Ils persévèrent dans le service, au verset 16 à 17. En fin de compte, ils attendent le maître en mettant la main à la pâte. Dès que le premier serviteur reçoit ses sacs de la part du maître, il part aussitôt au travail, verset 15. Celui qui en a deux fait de même, au verset 16. En revanche, au verset 26, le maître décrit le troisième serviteur comme paresseux. Les deux premiers serviteurs savent fondamentalement que leur maître est bon, et ils savent ce qui leur a confié, le salut, la justification, l'adoption. Et ils n'hésitent pas à mettre la main à la pâte par reconnaissance. Ils font preuve d'un esprit travailleur et persévérant, conscients du pain qu'ils ont sur la planche. Mais en fin de compte, quel pain avons-nous sur notre planche ici, à la Garenne ? Il y a quelques semaines, on a parlé à l'Assemblée Générale d'un projet d'église pour 2020. Ce projet comprend deux axes d'action où nous voulons focaliser notre effort d'église. C'est un projet qui a été réfléchi à la lumière de l'Évangile, conscient que Dieu veut se faire connaître et qu'il veut faire connaître sa grande compassion. Il nous communique aussi que sa moisson est grande. L'Église ici souhaite rayonner pour Christ auprès de la Garenne-Colombe, auprès de Colombes, auprès de Bois-Colombes et plus généralement dans l'ouest de Paris. Et ce n'est pas un projet en fin de compte pour nous mettre en valeur, mais c'est simplement un projet pour mettre en valeur le Père qui est rempli de compassion. Dieu nous a donc confié du travail à faire. Nous avons du pain sur la planche. Lorsqu'on pense aux milliers d'âmes, simplement dans l'ouest de Paris, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, on ne peut pas être autosatisfait, on ne peut pas dormir sur nos lauriers. Trop de monde n'a pas encore entendu parler de la bienveillance de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous assure que beaucoup vont devenir des disciples, parce que la moisson est grande. Dans un sens, là on est en train de parler de l'évangélisation, mais le travail que Dieu nous a donné ne se résume pas que à l'évangélisation, mais aussi à l'édification de l'Église. Car Dieu est en train de rassembler un peuple autour de Jésus-Christ, un peuple nombreux qui le connaît, qui l'aime, qui l'obéit, qui le glorifie. Et ce projet d'édification de l'Église passe par l'évangélisation. Et ça, on le voit notamment dans le livre des Actes, où les apôtres ont appliqué le commandement de Matthieu 28, « Faites des nations des disciples », en implantant des églises locales. Donc qu'est-ce qu'on fait en attendant le retour de Jésus? Eh bien, nous continuons de proclamer la bienveillance de notre Maître à travers l'édification de cette Église, qui passe aussi par l'évangélisation et l'implantation d'autres églises. Mais je me demande, comment est-ce que vous avez réagi en entendant parler de ce projet? Dans quel état d'esprit étiez-vous? Plutôt optimiste? Plutôt pessimiste? Plutôt motivé? Plutôt fatigué? Ou complètement indifférent? En fait, cette parabole est supposée nous booster pour remplir la tâche que Dieu nous a confiée. À la lumière du projet qu'on a parlé à l'Assemblée Générale, vous êtes peut-être super motivé, tout feu, tout flamme. Vous avez peut-être déjà commencé à prier. Vous avez peut-être un peu réfléchi à votre investissement, à combien vous pourriez donner de votre temps, de votre énergie, de vos finances pour soutenir ce projet. Vous êtes plutôt optimiste et vous réfléchissez activement pour savoir comment accroître le rayonnement de la compassion du Père. Ce nouveau projet peut aussi faire peur à d'autres. Ce nouveau projet peut sembler le projet de trop. Vous vous sentez peut-être coupable déjà de ne jamais en faire assez pour Dieu. Vous aimeriez pouvoir mieux faire les choses, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez peut-être peur de ce que le pasteur va vous demander de faire en plus. Mais sachez que Jésus ne vous demande de ne rien faire en plus. Il vous demande juste de faire fructifier le peu de choses qu'il vous a confiées. Et ça, c'est réconfortant. Notre bon maître, Jésus, ne se soucie pas de combien nous faisons. Il veut juste que nous remplissions la tâche qu'il nous a donnée individuellement. Et donc, chacun ce matin, on doit se demander, moi je dois me demander, qu'est-ce que Dieu m'a confié? Et est-ce que je fais bon usage de tout ce que Dieu m'a confié? En fait, on est une église d'une grande diversité d'âge, de moyens, d'énergie, d'argent et de temps. En tant qu'ancien, on suggère de nouveaux projets pour rayonner pour Christ dans l'ouest de Paris. Mais dans un sens, comme on l'a dit, on n'est pas en train de vous demander de faire plus. On est simplement en train de vous encourager à évaluer ce que Dieu vous a confié, à vous poser la question, est-ce que je mets en valeur ce que Dieu m'a confié? Peut-être que vous n'êtes pas du tout au clair sur ce que Dieu vous a confié. Alors ça, c'est l'occasion d'en parler avec un ami chrétien ou de parler avec un ancien de l'Église. Cette parabole est un stimulant pour que nous mettions tous la main à la pâte. Mais cette parabole est aussi un remède contre la compétition. C'est aussi un remède contre la compétition dans le service, ou même la culpabilité dans le service. Peut-être que vous êtes des parents ce matin. Vous êtes une maman ou un papa seul avec des enfants. Vous ne savez pas comment œuvrer pour votre maître. La routine de la famille bat son plein. Vous ne savez pas comment trouver plus de temps ou plus d'énergie. Si vous êtes une maman avec des enfants en bas âge, ben en fait, vous passez votre temps à changer des couches, à nettoyer peut-être la maison, à faire des repas et à essayer de tenir la maison en place. Vous ne voyez pas du tout comment les activités assez mondaines, les activités banales de la vie de famille participent à l'œuvre de Dieu. Mais sachez que si vous êtes parent, vous avez la lourde tâche de veiller à ce que vos enfants grandissent comme des disciples de Jésus-Christ. Et c'est de cette façon que vous participez à l'œuvre de Dieu. C'est une mission longue et laborieuse que d'enseigner à ses enfants la crainte du Seigneur. Ça nécessite énormément de prières. Mais ce service est d'une grande valeur pour le maître. Soyez fidèles dans cette petite chose que Dieu vous a confiée. Peut-être que vous êtes une personne âgée. Vous n'avez plus les ressources physiques ni l'énergie pour travailler dur. Vous avez de moins en moins de perspectives pour entreprendre de nouveaux projets d'évangélisation ou d'implantation. Vous pensez peut-être beaucoup à votre santé, à la fin de votre vie, ce qui est tout à fait normal. Mais sachez que vous avez toujours un grand rôle à jouer. Par exemple, dans l'encouragement des plus jeunes. En tant qu'aînés, vous êtes des exemples de persévérance dans la foi, pour nous, plus jeunes. Vous avez attendu plus longtemps que les autres. Vous nous montrez aujourd'hui comment persévérer dans le service, dans l'attente du retour de notre maître. Beaucoup de disciples plus âgés ont été de vrais exemples pour moi à travers leur vie de prière, pour l'église, pour les missions, pour les plus jeunes. Certains donnent à des instituts bibliques parce qu'ils ont plus de moyens, à des œuvres chrétiennes comme des camps, des églises, pour que les plus jeunes puissent se former comme disciples. Certains soutiennent des œuvres chrétiennes comme les chrétiens persécutés à l'étranger. Dans tous les cas, chers aînés, gardez simplement en tête qu'il n'y a pas de vraie retraite pour un disciple de Christ sur cette terre. Et nous, les jeunes, nous pouvons déjà penser à ça aussi. Il n'y a pas de retraite sur cette terre pour un disciple de Christ. La vraie retraite est la retraite céleste avec Jésus. Et donc, en attendant, nous avons tous un sacré boulot à faire. Peut-être que vous êtes un étudiant ou un célibataire. Vous avez peut-être un peu plus de temps, même si du temps, on n'en a jamais beaucoup à Paris. Vous n'avez pas d'enfant à votre charge, ni de mari. Ça prend du temps. Ou une femme. Vous faites fructifier alors votre temps, qui est un peu plus flexible pour servir Jésus, votre maître. Profitez de votre énergie pour aider des jeunes, des familles, des personnes âgées dans l'église. Saisissez les occasions au travail, à l'université, de parler de l'évangile à Jésus-Christ. Enfin, peut-être que vous êtes un serviteur fatigué. Vous avez œuvré dans le service du maître depuis plusieurs années et vous n'en pouvez plus. Vous êtes au bord de la rupture. La simple idée de persévérer dans le projet de Dieu, ça vous épuise. Vous patientez toujours plus pour le retour de Jésus. Vous ressentez toujours plus que le service chrétien est coûteux. Mais méditez sur les félicitations que vous recevrez de la part de Jésus. Il va vous dire, bon et fidèle serviteur, viens partager ma joie. Mais pour conclure, dans cette salle, se trouvent aussi des personnes qui sont comme le mauvais serviteur. Ce sont des personnes paresseuses qui ne font absolument rien pour le maître. Et l'avertissement au verset 30 est sévère. Le mauvais serviteur est jeté en enfer. Et ça, c'est un exemple marquant pour notre instruction et pour notre correction. Le mauvais serviteur a commis deux erreurs. Premièrement, il a caché ce que Dieu lui a donné et confié. Et deuxièmement, il a caricaturé son maître. Prenons garde de ne pas agir de la sorte. En fait, je pense que nous pouvons cacher ce que Dieu nous a confié de multiples manières, par des moyens assez détournés. On peut par exemple fuir après le culte pour éviter de faire connaissance avec d'autres chrétiens ou avec des non-croyants. On évite de trop s'impliquer dans le culte, de trop partager à notre sujet. On évite de s'impliquer aux réunions de prière, on évite de venir au groupe biblique. On veut juste garder la main sur notre temps, notre énergie, notre argent. On peut trouver en fait toutes sortes de subterfuges qui paraissent assez raisonnables pour ne pas servir notre maître. Comme, à Paris, on n'a pas beaucoup de temps. Et ça, c'est le cas pour tout le monde. La deuxième erreur, c'est de caricaturer notre bon maître. On ternit le portrait de Jésus. Peut-être qu'on croit que Jésus n'est pas bon. Peut-être qu'on croit que Jésus n'est pas si unique que ça. Peut-être qu'on pense qu'il n'est pas vraiment le seul chemin vers Dieu. Qu'il n'est qu'une divinité parmi tant d'autres. Et on va très vite fuir nos responsabilités si on prend cette piste-là, en disant en fin de compte que c'est la faute de Dieu. Il aurait dû se révéler plus clairement. La fin du mauvais serviteur est brutale et devrait nous remettre tous en question. Pour finir ce matin, on constate que les deux premiers serviteurs ont attendu le retour de Jésus en restant actifs dans le service du maître. Ils ont persévéré dans le service en puisant dans leur connaissance du bon maître. Et ils ont reçu des félicitations, versets 22 et 23. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de mon maître. Est-ce que nous avons aujourd'hui toujours l'envie, l'ambition d'entendre ces paroles de la bouche de notre maître? Est-ce que nous avons aujourd'hui toujours l'envie, l'ambition d'entendre ces paroles de la bouche de notre maître ?